Encore et encore des coups de feu. Cette fois, c'est à Laval. Deux hommes qui ont été blessés par balle. Un homme a été arrêté. Bénédicte Lebel est dans le quartier Chaumédé où ça s'est passé. Qu'est-ce que tu as comme information?
Écoute, j'ai pu en apprendre un petit peu plus dans les dernières minutes, Paul, parce que j'ai pu parler avec le propriétaire de la résidence où ça s'est passé, un père qui est inquiet, qui essaie de comprendre ce qui s'est produit, qui a vraiment eu peur. C'est en plein quartier résidentiel, là, sur la rue Léandre-Descôtes. Et ce que je comprends, c'est que ça commence vers 22h45. Trois jeunes qui sont réunis, semble-t-il, qui sont souvent aux alentours du garage, traînent souvent dans le garage de la résidence. Et les voisins m'ont parlé de 6-7 coups de feu. Donc, deux hommes de 19 et 20 ans qui ont été blessés par balle. Ils ont été retrouvés devant la résidence. On ne craint pas pour leur vie à ce moment-ci. Et le garage de la résidence, bien, le père a une compagnie d'électronique et il y a plusieurs éléments à l'intérieur. Donc, probablement qu'avec un projectile, il y a un incendie qui s'est déclaré là, dans le garage. Le fils du propriétaire, lui, n'a pas été blessé, mais ses amis, oui. Et c'est ce que l'homme m'a dit, c'est que ce n'est pas la première fois que ça arrive, que la maison est visée. Ça s'était aussi produit en 2020. On peut écouter l'homme.
Ça se peut, c'est lié à mon fils. Ça se peut, c'est les mêmes personnes qui l'ont fait la dernière fois. La personne qui est venue était là pour les tuer. Elle était là pour un assassinat. Elle n'était pas pour les faire peur ou les faire blesser.
Alors, il essaie de comprendre. Ce qu'on dit, c'est que les victimes étaient connues des policiers. Et ce que je comprends, moi, c'est que le reste de la famille est à l'extérieur du pays. C'est une famille dans cette maison-là qui a plusieurs enfants. Et le père me dit être vraiment démuni devant ce qui se passe. Comprend que c'est peut-être lié à son fils, mais n'ose pas s'imaginer ce qui aurait pu se produire. On peut l'entendre à nouveau.
Je peux pas vous dire comment je sens. Je suis perdu. Je suis sur le choc. C'est un cauchemar.
Alors, comment agir quand ça fait deux fois que ça arrive? C'est quoi les solutions? C'est ce qu'il me disait. Donc, il y a eu arrestation à Montréal, un homme de 19 ans autour de minuit. C'est quelqu'un qui vient de Montréal. C'est des informations qui ont été reçues, là, des témoins qui avaient vu notamment la plaque d'immatriculation. Lui a été arrêté à bord de son véhicule. La personne, le suspect, n'est pas connu des services policiers à ce moment-ci, présentement en interrogatoire. Devrait comparaître ce matin, possession d'armes à feu, d'avoir déchargé une arme à feu, de complot également. Et on en parlait un peu plus tôt à la Laval, c'est rendu qu'il y a beaucoup, beaucoup d'événements. On parle de plus d'une trentaine d'événements depuis le début de l'année liés aux armes à feu. Dans le voisinage ici, les gens sont inquiets. Il y en a qui ont dû quitter là, parce qu'il y a eu l'incendie, il y a eu les coups de feu qui étaient au beau milieu de la nuit, pieds nus avec les enfants pour s'en aller plus loin. C'est la deuxième fois que ça arrive. C'est loin d'être assuré.
Je comprends. Merci beaucoup, Bénédicte. Avec nous maintenant, le directeur du service de police de la Ville de Montréal, Sylvain Caron. Monsieur Caron, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Un cas, c'est pas sur votre territoire, le suspect est arrêté sur votre territoire, mais quand même, il y en a eu des comme ça aussi à Montréal. Qu'est-ce que vous dites comme directeur de police à un père là, qui sait plus quoi faire?
On comprend les familles et les citoyens actuellement d'être préoccupés par les événements qui se produisent. Puis on dit, écoutez, donnez-nous la possibilité de travailler, donnez toutes les informations que vous pouvez me donner en rapport avec ce qui se passe. Je comprends qu'est-ce qui est arrivé à Laval la nuit passée. On a évidemment ce genre d'événements qui se produisent sur notre territoire. Alors, on a besoin de la collaboration de la population. Le moindre petite information est importante pour nous aider à faire avancer les enquêtes.
Est-ce qu'à votre connaissance, là, les informations entrent? Est-ce que vous en savez plus ce matin qu'il y a deux semaines, il y a deux mois?
Oui, il y a beaucoup d'informations. Justement, je parlais avec les responsables d'Infocrime la semaine dernière, puis on me dit qu'eux ont une augmentation importante de citoyens qui rapportent des informations qui sont transmises à notre organisation. Alors oui, la collaboration du public est présente, puis il faut continuer dans ce sens-là. La moindre petite information est importante.
Pourriez-vous me définir qui sont les gens qui se tirent dessus dans le sens suivant, là? C'est une guerre de gangs, de territoires, c'est des individus où la moindre frustration les fait déraper. On a affaire à quoi?
On a affaire à des gens impulsifs, émotifs, qui, pour des raisons aussi insignifiantes qu'un conflit, une histoire de filles, toutes les raisons aujourd'hui sont bonnes pour aller faire... à les tirer. On a vu récemment dans les médias qu'on parlait de faire des scorés, là. Alors, vraiment, c'est la banalisation des armes actuellement qu'on vit, puis on tire pour rien dans des endroits résidentiels. Alors, c'est très préoccupant, on le sait. Puis, on travaille sur cinq axes précisément actuellement pour enrayer cette situation-là. La présence policière active dans les différents secteurs chauds qu'on identifie à chaque jour, on dirige du personnel additionnel. On a des enquêtes actives, on a le renseignement qui est mis à profit. On tente de communiquer le mieux possible à la population. Puis toute la question de la prévention avec les organismes puis auprès de la population, nos agents sociocom, il y a une grande mobilisation qui est faite dans l'organisation sur ces axes-là actuellement.
OK. On parle des armes, là. J'ai une question assez précise à vous poser. Les armes utilisées, trouvées, saisies, est-ce que ce sont grandement et majoritairement des armes qui viennent du marché noir ou si vous retrouvez des armes qui ont été achetées légalement dans ça?
Principalement, c'est des armes du marché noir, évidemment. On a des ghosts, qu'on appelle des ghost guns, donc des armes qui ont été fabriquées, qui n'ont pas exactement de numéro de série. Vous avez aussi du polymère qui est fabriqué aux États-Unis. Alors, il y a une multitude, beaucoup d'armes de poing, évidemment. La majorité, c'est des armes de poing. Alors, on a plus de 400 armes de saisie depuis le début de l'année en rapport avec des événements criminels. Alors, c'est quand même assez important comme situation.
Mais est-ce que je me trompe si je dis que n'importe quelle loi qui va encadrer la propriété et l'utilisation d'armes à feu au Canada changera pas une chose à la réalité du marché noir puis de ces ghosts là, donc, qu'on utilise justement dans ces actes de violence?
Je crois que c'est les sentences qu'il faut regarder. Alors, il faut avoir des sentences exemplaires dans l'utilisation de l'arme, dans la possession de l'arme, pour démontrer aux gens qui les utilisent, oh, attends un petit peu, là, il y a des sentences exemplaires qu'il faut avoir. Alors, la loi peut être modifiée, évidemment, parce qu'il y a des choses à faire, de moderniser la loi en rapport avec ce qui se passe, mais les sentences, je pense qu'on doit s'attendre à des sentences exemplaires compte tenu de ce qui se passe dans la banalisation des armes actuellement.
OK. Vous parliez de la présence sur le territoire, là. Les policiers, vous ne pouvez pas les inventer, là. Est-ce que je comprends? Je vous donne quelques chiffres, là, puis vous me dites si ça tient la route ou pas. Il y a 30 duos par jour, si on résume ça, là, qui sont consacrés à surveiller les quartiers chauds de Montréal puis à être présents. Ça a-tu de l'allure ou pas quand je dis ça?
Bien, j'irai un petit peu plus loin, M. Arcand. En 30 duos, il y a tout près de 200 personnes actuellement dans l'organisation qui sont mobilisées à tous les niveaux, en soutien, en enquête, en présence
mais
active. Mais
moi, je parle sur le terrain, là, pour que le citoyen voie la police. 30 duos, ça a-tu de l'allure, ça?
Juste pour ça, oui, ça a de l'allure juste pour ça, mais ça, c'est à part de tous les autres duos a dans les PDQ.
Oui. Okay. Je comprends. Mais compte tenu des effectifs que vous avez, êtes-vous en train de dégarnir des postes pour envoyer des patrouilleurs dans des endroits où c'est plus chaud? Autrement dit, là, vous jouez à promener les duos, mais il n'y a pas plus de police qu'avant sur le territoire, là.
Ben, écoutez, vous avez raison, il n'y a pas plus de policiers sur le territoire, mais il y a une affaire, une chose. Comme directeur de police, ma préoccupation première avec mon équipe, c'est d'assurer la sécurité de la population. Alors, on a une situation qui prévaut. Alors, ça aurait été irresponsable de notre part de ne rien faire. Alors, on a pris des dispositions avec les effectifs qu'on avait pour tenter d'enrayer la situation, puis évidemment, éviter ce genre de situation-là. Alors, avec le nombre d'effectifs que nous avons, on a travaillé à organiser pour être présent, puis assurer une présence, puis rassurer, puis retrouver un certain sentiment de sécurité. Est-ce que c'est l'idéal? Non, on peut pas faire ça tout le temps. De là, les annonces qui ont été faites récemment, puis on est en train de réorganiser nos affaires pour être capable de faire face à cette situation sur une longue durée. C'est une longue période.
Payez-vous beaucoup de temps supplémentaire à vos patrouilleurs?
Oui, il y a beaucoup de temps supplémentaire cette année pour différentes raisons. Alors, il y a l'événement de la Coupe Stanley, évidemment.
Mais dans beaucoup. Le cas de cette guerre là, contre les fous avec leurs armes, là.
Oui, il y a beaucoup de temps supplémentaire. Il y a des gens qui ont dû rentrer pendant leur période de vacances, autant des cadres que des policiers syndiqués. C'est une période exceptionnelle qu'on a vécue cet été.
Quand vous regardez ça, là, puis là, je vous demande pas du renseignement criminel à la radio, là, mais... Est-ce qu'on est capable d'identifier des leaders, une certaine structure, ou c'est tellement individuel, tellement en changement? C'est pas comme la mafia, là, qu'on a une structure, disons, opérationnelle. Dans le cas qui nous intéresse, c'est pas comparable.
C'est pas comparable. C'est tellement individuel. C'est des jeunes de tout âge qui se regroupent ensemble. Alors, c'est vraiment... Il n'y a pas d'identification formelle de dire, ben, c'est telle personne, c'est telle personne. Il y a un petit groupe restreint, évidemment, qui est connu de par les différents groupes qui sont impliqués. Mais il y a tellement de gens qui tournent alentour d'eux. Alors, c'est très difficile d'identifier les acteurs.
Merci, M. Caron.
Ben, bonne journée, M. Arcand.
Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Sylvain Caron est le directeur du service de police de la Ville de Montréal. On fait avec les effectifs qu'on a. C'est-à-dire que Je ne partirai pas le débat sur le financement de la police, là, mais c'est un enjeu pour la prochaine campagne électorale qui s'amorce à Montréal. Là. On va mettre combien dans la police? Puis je ne dis pas que la solution passe que par la police. Mais quand tu es à Chomédé, là, c'est à Laval, quand, puis il y a des élections à Laval, quand tu es à Montréal, dans Parc Extension, où que ça se met à se tirer dessus, là, dans un quartier résidentiel, puis parfois en plein jour, peut-être qu'on devrait s'interroger sur la présence policière. Puis pas juste le dire, il faut que ça sente de la part des citoyens. Puis j'imagine les gens de Laval ce matin qui sont assez affectés par encore une fois. Puis demain, ça va être ça. Puis en fin de semaine, on va avoir d'autres cas. Puis lundi matin, on va revenir, puis ça va être encore ça. C'est malheureusement, depuis le début de l'année, c'est une répétition.